du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, ce week-end, C'est pas du vent vous propose des émissions spéciales, des productions franco-malgaches. Pendant 3 ans, une trentaine de journalistes de 13 radios du nord de Madagascar ont été formés par l'Académie RFI France 24 à la production d'émissions de radio sur l'environnement. Car la radio, c'est l'outil de sensibilisation, de proximité par excellence, et la préservation de l'environnement est un enjeu vital pour les communautés malgaches qui, en dehors des villes, en dépendent à 100% pour se nourrir, cuisiner ou construire leur maison. À l'issue de cette formation financée par l'Union européenne, un concours a été organisé. Les 6 lauréats ont gagné du matériel d'enregistrement et ou des ordinateurs. Et pour 2 d'entre eux, l'opportunité d'accompagner des journalistes de RFI sur le terrain pour réaliser des grands reportages. Une expérience professionnelle et humaine unique. Et c'est le fruit de cette coproduction que vous allez découvrir ce week-end dans C'est pas du vent. On commence tout de suite avec le premier reportage coproduit donc par Arnaud Jouve et Aldis Racco Coton Drabé de Radio Andrea Antsoui.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous sommes sur la côte ouest de Madagascar, sur une péninsule de 20 000 hectares de sable blanc, de mangroves et de raffia qui s'étire le long du canal du Mozambique au sud de Majunga. Une terre encore naturellement préservée qui abrite la plus grande concentration de Propithèques couronnés de la Grande Île, une espèce endémique de lémurien totalement protégée par les habitants de la région, les Sakalaves de Bouen. Un petit peuple toujours très attaché à sa tradition qui a depuis longtemps uni sa destinée à celle de ses lémuriens, de ses Sifakas, et qui vit sous la direction de son prince, le prince Sinamantri, qui est aussi le gardien de la coutume. Rencontre avec le prince Sinamantri. Pour l'occasion, les femmes se sont habillées avec leurs plus beaux tissus et ont recouvert leur visage de machanjoy, une plante utilisée aussi pour se protéger du soleil. Et comme le veut la tradition, nous amenons des cadeaux symboliques et quelques boissons. À l'entrée du village de Douane, où réside le prince, un groupe de chanteuses vient nous accueillir et nous accompagne en chantant jusqu'à sa maison. Devant la maison en raffia, face à un manguier sacré, le prince, élégamment vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate et d'une étoffe traditionnelle colorée, nous accueille et nous invite à nous installer chez lui pour nous raconter le grand mythe fondateur des Sakalaves de Bouen qui un jour a uni l'homme au lémurien, au Sifaka.
Avant toute chose, il faut que vous sachiez que le Sakalave protège les Sifaka, car ces animaux sont considérés comme des êtres humains. D'abord, parce qu'ils participent, comme les hommes, au reboisement de la forêt. En se nourrissant, ils diffusent dans la nature des fruits et des graines qui vont donner naissance à d'autres plantes, qui elles-mêmes grandiront et se multiplieront. C'est pourquoi le Sakalave élève ses animaux, les Sifaka, au rang d'humains, car ils sont capables de faire ce que les humains peuvent faire, planter des arbres et revégétaliser la nature. Mais les Sakalaves protègent aussi les Sifaka à cause de l'histoire suivante. Il était une fois, il y a très longtemps, un ancêtre des Sakalaves, du nom de Maroonkats. Il n'était pas de rang royal, mais il était très proche et très familier avec la famille royale de l'époque. Un jour qu'il se dirigeait vers son champ, dans la forêt, il fut gravement blessé et trouva un refuge à l'abri d'un grand arbre. Au-dessus de lui, dans ce grand arbre, il y avait 2 Sifaka, un mâle et une femelle. Et ils ont vu qu'il était gravement blessé. Et les 2 Sifaka sont descendus du haut de l'arbre et sont venus s'occuper de ses blessures. Les 2 Sifaka se mirent alors à faire des va-et-vient dans la forêt pour ramener des feuilles qu'ils mirent sur les plaies de l'homme blessé. Mais le soir venant, la famille de Maron Katz commença à s'inquiéter de ne pas le voir de retour. Et on se lança à sa recherche, jusqu'à ce que finalement, on le retrouve au pied de l'arbre. Et on le transporta pour le ramener à la maison. Le lendemain, Maron Katz, se sentant déjà un peu mieux, décida de retourner sous le grand arbre où il s'était réfugié dans l'espoir de retrouver les deux sifakas pour tenter de savoir quelle plante les sifakas avaient utilisée, car il aurait bien voulu pouvoir continuer à se soigner avec ces mêmes plantes chez lui. Arrivé au pied du grand arbre, Maron Katz se mit à appeler les sifakas par une sorte de... Et les sifakas lui répondirent par un... Et les sifakas apparurent auprès de lui. Maron Katz leur demanda « Quelles sont les plantes que vous avez utilisées pour me soigner ?» Car je voudrais bien continuer le traitement chez moi. Les sifakas partirent alors dans la forêt et se remirent à faire des va-et-vient en rapportant des plantes. Puis ils donnèrent à Maron Katz 9 espèces de plantes qu'ils avaient utilisées. Maron Katz rentra chez lui et il se soigna pendant plusieurs jours avec les 9 plantes que lui avaient données les Lémuriens jusqu'à sa guérison totale. Plus tard, Maron Katz décida de retourner dans la forêt pour remercier les deux sifakas. Et quand il les retrouva, il leur demanda l'autorisation de pouvoir transmettre cette connaissance pour qu'elle puisse permettre aussi à ses enfants, à sa femme ou à d'autres hommes de se guérir aussi efficacement. Alors, les deux sifakas ont pris sa main et l'ont léché et tapoté 6 fois de suite pour qu'il ait le don de soigner avec ses 9 plantes. À partir de cet instant, Maron Katz hérita de cette connaissance et il demanda à tous ses descendants de tout faire pour protéger ces 9 espèces de plantes qui peuvent donner la vie. Depuis, Maron Katz et ses descendants sont devenus des Tifangai, c'est-à-dire des tradis praticiens capables de guérir avec les plantes. Un jour, Maron Katz est allé voir le roi et lui a raconté cette histoire. Le roi comprit et donna l'ordre à tous les sakalaves de ne pas tuer les sifakas et demanda à son peuple de tout faire pour les protéger, les sifakas veillant aussi au reboisement et à la régénération de la forêt. Et aujourd'hui encore, quand un corps de sifaka est retrouvé, il a droit à des funérailles, comme pour les humains. Et c'est pourquoi, depuis, les sakalaves vénèrent les sifakas et les considèrent comme des représentants de leurs ancêtres.
Prince, que dit la coutume sur les autres animaux?
La population sakalave a un grand respect vis-à-vis de son environnement, que ce soit la forêt, que ce soit la mer, que ce soit les animaux. Par exemple, nous mangeons des oiseaux, mais nous ne les vendons pas. Le simple fait de les manger ne va pas mettre en danger ces espèces. Alors que si cela faisait l'objet d'un commerce, les conséquences sur la survie de ces espèces seraient terribles. Cela épuiserait rapidement la ressource et l'argent que l'on pourrait tirer de ce commerce. Tout comme le vol des oiseaux, cet argent va s'envoler. Et au bout du compte, on sera pauvre. Donc c'est pour ça qu'il est interdit à la population sakalave de vendre des oiseaux comme le vivi. Le sakalave a aussi un grand respect pour tous les autres animaux. Par exemple, il ne mange pas de chauve-souris, parce que cet animal joue un rôle important dans la régénération de la forêt. Tout ce qui favorise le développement de la forêt est protégé.
Pour protéger les lémuriens, la coutume et donc le mode de vie traditionnel, les sacs à lave doivent absolument préserver leur environnement, fait de grandes plages, de mangroves et de forêts. Or, cet espace de nature, jusqu'alors bien conservé, est de plus en plus sollicité et subit de fortes pressions de l'extérieur, et notamment de la grande ville de Majunga, qui se trouve à vol d'oiseau à une douzaine de kilomètres de là. Aldis Rakotondrabe, de la radio Andrea, qui est co-réalisatrice de ce reportage, a rencontré sur cette question Dazao, un VNA d'Anchema, un représentant du ministère de l'Environnement et des Forêts au niveau local, dont la fonction est justement de protéger le territoire.
Je m'appelle Zao, je suis VNA à Katsepe Anchema. Ici, notre gros problème, c'est la coupe sauvage des arbres par des gens qui viennent d'ailleurs. Tous ces gens viennent ici sans autorisation pour faire du charbon de bois qu'ils vont vendre.
Et c'est un vrai problème ?
C'est un vrai problème, parce que nous dépendons beaucoup de ces arbres. C'est notre tradition, et avec les arbres, nous construisons nos maisons, nos pirogues, nos enclos. Mais nous ne prélevons que ce que nous pouvons prendre, et nous ne faisons pas de commerce. S'ils coupent tout, comment ferons-nous ? C'est pour notre futur que nous protégeons ces arbres.
Aujourd'hui, cet espace bénéficie d'une protection particulière. Le territoire des sacs à lave d'Anchema a été classé en aire protégée. Une histoire qui est née d'une rencontre entre le prince et le Muséum d'histoire naturelle de Paris que nous raconte Claude-Anne Gauthier, la directrice du département des galeries du Muséum, qui est le coordinateur de ce projet.
Le point de départ de l'aventure, c'est le parc zoologique de Paris, dans les années 98. Et au parc zoologique de Paris, on détient la plus grande collection de lémuriens en captivité, la plus diverse également, et parmi ces lémuriens, on y trouve le propithèque couronné, dont les éléments fondateurs avaient précisément été capturés du côté d'Anchema, Katsepe. Donc le zoo nous envoie en mission, une petite équipe part là-bas, à Madagascar. On nous dit qu'à un endroit, pas très loin du phare, il y a une communauté sac à lave qui vit à proximité des propithèques couronnés. Et là, on découvre ce milieu formidable, on découvre des propithèques en quantité qui ne sont pas effrayés par la présence de l'homme, et on rencontre le prince Tsimanendri, donc le fameux prince sac à lave, qui est gardien d'une tradition. On court tous les coins d'Anchema, on découvre qu'il y a des propithèques partout, dans les mangroves, dans les forêts, etc. La mission s'arrête et on va saluer le prince pour le départ. Et il nous dit, maintenant vous allez partir, mais vous savez, on est à 12 km à vol d'oiseau de Majunga, les pressions sont fortes, les gens viennent prélever du bois, viennent aussi capturer des lémuriens. Hein. Et vous allez partir et toutes ces pressions vont à nouveau être présentes. Il nous a dit, mais il faut nous aider à protéger. Alors ça veut dire, ça correspond à Fukuntan, il y a une limite administrative, est-ce qu'on peut pas préserver cette limite administrative. Mais pour faire une demande d'air protégé, il fallait qu'il y ait un appui extérieur. Donc on était le bailleur extérieur, mais la demande est bienvenue de la communauté sac à lave à l'origine.
Pour répondre aux difficultés rencontrées par la population, le projet a pris forme. La zone a été administrativement protégée et quelques aménagements sur place ont été apportés au fil des années. Une aide au nom du développement qui a commencé avec la création d'un petit pont. Claude-Anne Gauthier.
Alors la première action qu'on a eu à construire là-bas était de construire un pont qui devait permettre en fait à différentes parties du village d'Anchema d'être reliées, parce qu'il y avait un espèce de grand ruisseau qui traversait le village dans lequel il y avait des crocodiles qui avaient attaqué zébus et autres personnes. Donc afin que les enfants puissent accéder à la même école, on a fait construire un pont et qui est toujours le pont d'accès d'Anchema vers le reste de la station forestière.
Et puis après le pont, il a fallu trouver des petits financements extérieurs pour d'autres aménagements urgents, toiture d'école, barrage ou une case sanitaire. Et progressivement, le muséum, qui n'a pas vocation à supporter ces actions de développement, s'est mis en quête d'une solution de financement local et l'idée est née d'y développer le tourisme avec un projet de campement touristique écologique, un écolodge. Claude-Anne Gauthier.
Cette idée-là, elle a commencé à passer dans l'esprit de la communauté locale il y a peut-être 3-4 ans. Et depuis l'année passée, en fait, Anchema est ouverte aux touristes. On est convaincu de notre côté qu'on peut faire mieux en matière d'accueil et donc on a identifié avec le prince et avec la communauté locale, un autre site sur lequel, effectivement, on a un projet d'implantation d'écolodge. Alors, cet écolodge-là, il sera communautaire, ceci suppose effectivement que la communauté locale sera partie prenante de ce projet, je dirais à tous les niveaux du projet. On va dans cette voie-là, et c'est la seule voie qu'on ait trouvée pour parvenir à un autofinancement de l'aire protégée dans son ensemble.
Commentaire du prince Simanon Tri au projet d'écolodge.
Le projet d'écolodge d'Anchema ne nous pose pas de problème si les conditions que nous avons fixées sont respectées, surtout vis-à-vis de ce que nous appelons nos FAD, c'est-à-dire les interdits qui doivent être respectés. Sur ce projet, il y a eu une consultation avec toute la population d'Anchema. Et il a été décidé que le système de gestion de ce projet touristique doit être communautaire, c'est-à-dire que c'est la communauté qui va gérer ce projet dès le début.
Vous pensez que ce lodge peut apporter de bonnes choses ?
L'objectif est d'apporter de l'argent pour favoriser l'économie de notre région, à condition que cela ne détruise pas notre coutume. Ce projet sera le bienvenu, car nous aussi nous aimons le développement, mais cela ne pourra se faire qu'à nos conditions.
La communauté arrivera-t-elle à concilier développement et tradition sans tomber dans une sorte de folklorisation du prince et de ses lémuriens ? Réponse de Claude-Anne Gauthier.
Il est clair qu'à partir du moment où on fait coexister des aspects traditionnels et des aspects touristiques, le risque de la folklorisation, oui, je crois qu'il est clairement là. À partir du moment cependant où on peut considérer que la vraie nature, que le lien vraiment entre les Sakalaves et ces lémuriens et cette nature, que ce lien est toujours maintenu et toujours vivant, je pense qu'on ne la dénature pas dans son essence, je dirais. En revanche, oui, il y aura des choses d'organiser de façon à ce que le touriste puisse rencontrer cette culture et la découvrir.
Le tourisme est une étape nouvelle qui amènera nécessairement des changements, tout comme les petits projets de développement qui ont modifié profondément au fil du temps la vie de la communauté. Pour le meilleur ou pour le pire, il est peut-être encore un peu tôt pour faire le bilan. Mais pour Claude-Anne Gauthier, l'expérience est globalement positive.
Je pense que si on n'avait pas engagé ce projet, je pense qu'Anchema n'existerait plus. Aujourd'hui, on sait que c'est le seul endroit à Madagascar où on trouve encore cette concentration de propithèques. Donc on peut considérer effectivement qu'en matière de conservation de cette espèce de lémurien en particulier, l'objectif est atteint. Les choses sont plus mitigées quand on regarde l'écosystème dans son ensemble. Il y a eu ces années de crise, 5 années qui ont été très très longues et au cours desquelles tous les écosystèmes ont été abîmés. Tout le monde a été pillé d'une façon ou d'une autre et Anchema n'a pas été épargné. Donc notre démarche est effectivement de continuer les efforts de conservation en faisant de la restauration de manière à ce que l'habitat des propithèques et l'utilisation de l'habitat de façon raisonnée par la communauté locale reste une réalité.
Pendant combien de temps encore le prince continuera-t-il d'aller sous le grand manguier appelé les Sifaka ? À l'image de ce qui se passe sur la grande île, on peut se demander pendant combien de temps cette nature prodigue survivra, pendant combien de temps la coutume résistera. Mais pour l'instant, et pour quelque temps encore, au sud de l'océan Indien, sur les rives du canal du Mozambique, un prince parle encore aux Lémuriens.
Doucement.
Ce reportage est en coproduction par Aldis Rakotondabré de Radio Andrea Ansui et Arnaud Jouve de Radio France Internationale sur un financement de l'Union Européenne, a été réalisé dans le cadre du projet Mobilisation des radios malgaches pour la préservation de l'environnement, sur une réalisation de François Porcheron.
Restez avec nous, le temps pour vous d'écouter le flash d'info et pour François et moi de faire quelques centaines de kilomètres vers le sud, direction Morombé, où l'ONG ACIT aide les villageois à mieux préserver leurs ressources naturelles.